France Inter.
Aujourd'hui, la peur des araignées n'est pas une fatalité. Racontée par
Jessica Jousse-Baudonnet, vétérinaire et amie des araignées.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Il suffit parfois d'un coin de plafond ou d'un mouvement trop rapide pour que le cœur s'emballe à la vue d'une araignée, pourtant parfaitement inoffensive dans l'immense majorité des cas. Chez certaines personnes, la réaction est immédiate, provoquant une peur intense, des cris, la fuite et parfois même une panique incontrôlable. Cette peur porte un nom, l'arachnophobie. Loin d'être marginale, cette peur est aujourd'hui reconnue comme l'une des phobies spécifiques les plus répandues dans la population. Les grandes enquêtes épidémiologiques montrent qu'elle concerne des millions de personnes à travers le monde, à des degrés variables bien sûr, et qu'elle figure en tête des phobies liées aux animaux. Autrement dit, ce que beaucoup vivent comme une faiblesse personnelle est en réalité une expérience largement partagée. Les classifications internationales en psychiatrie ne parlent pas ici d'un simple dégoût ou d'une appréhension passagère, mais d'une peur persistante et disproportionnée capable de s'imposer au quotidien. Ce qui intrigue les chercheurs, c'est ce décalage entre le danger réel, extrêmement faible donc sous nos latitudes, et la réaction émotionnelle parfois fulgurante, une peur qui surgit avant même que la raison n'ait le temps de s'exprimer. Depuis plusieurs décennies, la psychologie et les neurosciences tentent de comprendre ce mécanisme. Pourquoi le cerveau humain identifie-t-il si rapidement l'araignée comme une menace? Et surtout, cette peur est-elle condamnée à durer toute une vie? Sur ce point, la littérature scientifique est sans ambiguïté. L'arachnophobie n'est pas une fatalité. Les études cliniques montrent qu'il est possible d'en atténuer fortement les effets, parfois en quelques séances seulement, en permettant au cerveau de désapprendre la peur. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter.
Alors, j'ai découvert que j'avais une phobie des araignées depuis toute petite. Les grosses araignées, j'angoisse, je les vois, je peux pas les tuer. Je crie, il faut que absolument quelqu'un de ma famille vienne la tuer, sinon je dors pas de la nuit si c'est une grosse. Des fois, je pleure quand c'est vraiment des grosses et qu'elles courent vite. J'ai limite, je pleure, je me gratte, je crie. Enfin, je suis vraiment pas bien. J'ai peur, quoi.
Sur le site d'Allo Docteur en 2012, le témoignage de Jennifer, 22 ans. Jessica Jousse-Baudonnet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous publiez chez Tana Éditions ce que les araignées m'ont appris. Car la morale de votre histoire, c'est que l'on peut largement surmonter donc cette peur, l'arachnophobie. Vous vous reconnaissez dans ce témoignage de Jennifer. Vous pourriez quasiment avoir les mêmes mots qu'elle.
Exactement, j'aurais eu les mêmes mots qu'elle il y a encore une dizaine d'années, dans la même situation.
Et c'est terminé maintenant ?
Et c'est fini. Je suis très heureuse d'être passée de l'autre côté.
À quoi correspondait cette peur alors chez vous ? Est-ce que vous pouvez nous la décrire un petit peu ?
L'arachnophobie, c'est un peu une situation d'anxiété plus ou moins permanente, surtout quand on habite dans une région où il y a beaucoup d'araignées.
Quelle région en l'occurrence ?
Alors moi j'habite en Languedoc-Roussillon, à côté de Perpignan, et... Et en fait, on voit des très grosses araignées là-bas. Mais en fait, on peut y être assujetti un peu partout, parce que des araignées, il y en a même chez nous, à l'intérieur des maisons, partout en France. Mm-hmm. Et donc, en fait, ça crée un état d'alerte permanent. Ouais, on est tout le temps sur le qui-vive. Des fois, on pense voir une araignée alors qu'on a vu une poussière.
Donc, c'est quelque chose qui ne vous quitte pas?
Ouais,
vous avez toujours une petite araignée dans le coin de la tête.
On a toujours une petite pensée, un petit mouvement des yeux quand on rentre dans une pièce pour savoir s'il n'y a pas dans un coin une araignée qui traîne. Ouais, c'est vraiment une phobie qui fait qu'on est sur le qui-vive.
Alors vous écrivez que vous pensiez être la plus grande des arachnophobes. À quel moment il y a quand même eu une bascule entre la peur et la phobie chez vous ? Comment ça s'est transformé ?
Je pense que c'est le bon mot, ça s'est transformé. Avant, j'étais simplement pas super à l'aise ou un peu méfiante à l'égard des araignées. Et puis, un jour, en sortant de la douche, quand j'avais 12 ans, j'ai attrapé ma serviette et je l'ai enroulée autour de moi.
Aïe.
Et là, il y a une grosse tégénaire qui m'est tombée sur le pied.
Il faut les décrire peut-être, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ces animaux dans des régions plus au nord de la France, par exemple.
Alors, c'est des araignées, c'est parmi les plus grandes qu'on peut observer dans nos maisons. Et elles ont des longues pattes très poilues et un corps assez assez épais aussi. Et donc,
ça ressemble à une migale un petit peu ou pas?
Non, c'est moins épais, on va dire, mais ça a des très grandes pattes. En général, c'est les grandes pattes velues qui font peur
c'est
aux
ça,
gens.
Ouais. Ouais, ouais. Donc, vous tombez dans votre serviette sur cette araignée.
Ouais, et plutôt, elle me tombe sur le pied et là, c'est la panique. Et c'est vraiment cette vision qui a déclenché la phobie.
Ouais. Qu'est-ce qui distingue, justement, selon les critères cliniques, une phobie d'une simple peur ou d'un dégoût alors? Parce qu'il y a des critères hein, qui
ouais,
sont
tout
clairement
à fait.
Établis là-dessus.
Il y a des critères très précis. Alors, la phobie, contrairement à une simple peur, c'est donc une peur intense qui est disproportionnée, qui arrive tout de suite dès qu'on voit l'animal, qui dure dans le temps et qui se traduit par des changements de comportement. Donc, on va être sujet à ce qu'on appelle l'évitement actif, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte de ne pas croiser une araignée quand on peut. Et en fait, ça a des répercussions sur le quotidien parce que déjà, ça crée de la souffrance psychologique et en plus, ça crée une altération de notre fonctionnement. Donc, ça peut avoir des répercussions sur notre travail, sur notre vie de tous les jours.
Voilà, ouais. Et vous avez croisé beaucoup d'autres arachnophobes dans votre région ou pas?
En fait, c'est assez difficile à décrire parce que souvent, les gens se disent phobiques, d'autres disent qu'ils ont peur, et je pense que la limite est un peu floue pour certaines personnes entre la phobie et la peur. Mais oui, ce qui est certain, c'est que j'ai croisé beaucoup de personnes qui avaient peur aussi des araignées.
C'est très commun en réalité,
c'est,
hein. C'est ce que montrent les enquêtes, c'est vraiment une des phobies les plus spécifiques hein, et identifiées aujourd'hui.
Oui, tout à fait. En Europe, on estime que, alors pour les arachnophobies diagnostiquées, on estime que c'est à peu près 3 à 6%, mais en fait, donc j'ai discuté avec Christine Rollard, qui est une grande spécialiste des araignées. Et qui
c'est
me
la
disait
queen
que
des araignées.
C'est vraiment la queen des araignées. Et elle me disait que si, en fait, si on prenait en compte les cas non diagnostiqués, on pouvait monter jusqu'à 10%. Ce qui est énorme en fait.
Oui, parce que tout le monde ne consulte pas en fait pour ces questions-là.
Et non, pour consulter, il faut déjà savoir que c'est un problème et il faut avoir envie de guérir, ce qui n'est pas le cas de tout le monde.
Ouais. Donc tout le monde déclare quand même, enfin dans les enquêtes, c'est vraiment très massif. Hein,
oui, c'est massif et au-delà de ça...
À différents degrés. Hein.
Ouais. Et au-delà de la phobie, on estime que les gens qui ont un dégoût ou une peur simple des araignées, c'est entre un quart et la moitié des personnes. Alors c'est surtout dans les pays qui ont un peu perdu le contact avec la nature. Mais voilà, ça peut représenter des proportions énormes de la population.
Comment les scientifiques expliquent justement cette peur massive des populations envers les araignées?
Pendant longtemps, on a cru que c'était surtout inné. Aujourd'hui, les scientifiques remettent un peu en cause cette perspective-là, pour tout un tas de raisons. Hein. On sait aujourd'hui que les araignées... il n'y aurait pas trop de sens d'un point de vue évolutif qu'on ait évolué pour en avoir aussi peur, parce qu'elles sont...
Par rapport au danger réel.
Par rapport au danger réel, il n'y a absolument aucune crainte à avoir des araignées. Donc en fait, aujourd'hui, on pense que c'est plutôt quelque chose qui est appris, qui est culturel, parce qu'on sait qu'il y a plein de cultures dans lesquelles on n'a pas peur des araignées, au contraire.
Oui.
Et donc c'est quelque chose qui peut être enseigné, qui se fait aussi par mimétisme, quand on est enfant et qu'on voit ses parents avoir peur des araignées, quand on voit ses amis avoir peur des araignées, et aussi par apprentissage et par nos expériences, parce qu'on voit parfois à la télé, parce qu'on voit au cinéma,
c'est ça.
Parce qu'on peut entendre sur les araignées, tout ça peut déclencher ce genre de phobie.
Tout étant largement amplifié. Hein,
bien sûr.
Évidemment. mais il n'y a pas du tout d'hypothèse évolutive selon vous, parce qu'il y a quand même l'idée qu'il y a il peut y avoir un danger quand même sur certaines de ces araignées et que donc l'avantage de survivre c'est de fuir. Quoi,
oui, exactement. En fait, il y a des recherches qui ont justement cherché à savoir si ça c'était vrai pour les araignées. Et aujourd'hui, on a un peu du mal à être formel sur le côté inné, parce que ce que montrent ces études, c'est en fait que les bébés qui sont étudiés ont une attention très marquée pour ce qu'ils connaissent pas, pour l'inconnu. C'est des études qui sont faites sur les serpents, les araignées, les hauteurs, etc. Mm-hmm. Et ce qu'on voit, c'est vraiment qu'il y a une attention qui est marquée, mais sans tout le côté...
phobique, justement.
Ouais, sans tout le côté phobique. Donc voilà, c'est vraiment une hypothèse qui est aujourd'hui un peu mise en question.
Mais c'est ça qui est étonnant, hein, c'est ce décalage, finalement, entre la peur ressentie et le danger réel posé par les araignées. C'est assez frappant, quand même. Hein.
Ouais. Oui, c'est frappant.
Parce qu'autant sur les serpents et sur certaines espèces, on peut comprendre, mais sur les araignées, c'est quand même plus étonnant.
Oui, et je pense que ça peut venir aussi du fait qu'on se soit un peu éloigné du monde naturel, qu'on ait moins l'habitude de les voir et d'en parler que dans d'autres régions du monde. Et donc, quand on voit une araignée, c'est tout de suite quelque chose d'inconnu et qu'on associe avec tout ce qu'on a entendu de négatif sur elle.
Jessica Jousse-Baudonnet, est-ce que vous avez vu des films consacrés aux araignées? Il y en a eu quelques-uns quand même.
Oui, il y en a eu quelques-uns.
Vous arrivez à les regarder ou pas?
Oui, alors quand j'étais arachnophobe, je n'allais pas voir des films sur les araignées. Mais dernièrement, j'ai vu Vermine au cinéma, qui est un des derniers films qu'il y a eu sur les araignées.
Ouais. Arachnophobia 1990.
Ouais,
ça vous dit pas né. Vous n'étiez pas né, mais vous auriez pu le voir quand même.
J'aurais
après.
Pu le voir. Il paraît qu'il est très bien. On me l'a conseillé. Ouais.
Alors Frank Marshall, on va en écouter un extrait.
Je sens toujours cette sensation de me réveiller encore somnolent, paisible, en sécurité. Et puis elle était là.
Ça devait sûrement être un faucheux.
Oui, eh bien, elle m'a semblé énorme et elle est venue inexorablement en se faufilant. Et lorsqu'elle a touché ma jambe...
Tu devais être encore à moitié endormie, c'est tout.
J'étais paralysée, Molly. Je suis encore paralysée, d'accord? Je t'en prie, essaie de comprendre ce que je peux ressentir. Je me suis trouvé physiquement incapable d'empêcher cette bête de ramper le long de ma peau nue. C'était... Je me sens encore maintenant ces petites pattes poilues. Et elle est montée sur mon visage. Tu sais, c'est un sentiment d'horrible impuissance, d'être exploré par un corps étranger, c'est tout. Tu ne peux pas me reprocher d'être araignée-phobe.
Arachnophobe.
Voilà, Arachnophobia 1990, Frank Marshall. Est-ce que ce type de film, finalement, ne participe pas aussi à cette perception quand même très biaisée que nous avons des araignées?
Oui, et surtout, je pense que ça dépend aussi notre degré d'impressionnabilité, si on peut dire ça. Ouais. En tout cas, quand on voit ces films enfants, ça peut en créer des peurs déraisonnables. Il y a une petite fille qui me demandait, il y a une semaine, est-ce que ça existe les araignées d'un mètre cinquante? Parce qu'elle avait vu ça dans un film. Et ouais, en fait, faut pas sous-estimer l'effet des images. Surtout dans une phobie comme ça qui... Enfin, la phobie, c'est un trouble anxieux, donc c'est un trouble émotionnel. Et tout ce qui peut nous provoquer une émotion, et donc les films, peut participer à aggraver cette phobie.
Est-ce que vous, Jessica Jousse-Baudonnet, la peur de ces araignées, la phobie de ces araignées, vous a fait prendre certaines décisions dans votre vie pour essayer de les éviter?
Oui, bah alors c'était plutôt des choses du quotidien. Il y a des pièces que je refusais de visiter, des endroits où je voulais pas aller, tout ce qui est cave, cabanon, je voulais pas en entendre parler. Il y a certains types de vacances que je pouvais pas, tout ce qui était camping, c'était hors de question.
Ouais.
Et oui, c'est une phobie. En fait, je voulais pas qu'elle m'atteigne dans la vie de tous les jours, mais elle m'atteignait que je le veuille ou non, parce que ben les araignées, elles sont un peu partout.
Ouais.
Et ben quand je voulais aller en cours et qu'il y avait une araignée au-dessus de ma porte, ben c'était l'araignée qui gagnait et ouais. Je pouvais pas sortir, quoi.
Et comment on concilie quand même une passion pour les animaux? Parce que je rappelle quand même que ouais. Vous êtes vétérinaire, donc les animaux, vous les aimez depuis très longtemps, et une peur aussi intense des araignées.
Ouais, mais c'est ça qui est particulier, c'est que aucun problème avec tous les autres animaux, mais les araignées. M'ont vraiment posé de gros problèmes et ça a été un peu source de dissonance cognitive quand j'étais à l'école véto et que je me disais mais je fais ça pour les animaux et en fait quand je vois une araignée je me comporte à l'inverse de manière très cruelle et c'était dur pour moi à vivre de me dire que j'arrivais pas à passer au-delà de cette phobie.
Quand vous parlez de cruauté, ça veut dire quoi?
Ben en fait, vous voyez, quand on voit une araignée et qu'on est phobique, il y a un problème, c'est qu'on ne peut pas continuer à vivre tant que l'araignée existe. Et donc, moi, j'étais incapable de les tuer parce que je ne pouvais pas prendre le risque que l'araignée s'enfuit. Parce que ce qui m'avait fait très peur dans l'épisode de la Tégénaire, c'est que l'araignée était partie en courant avec ses longues pattes poilues. Et donc, voir une araignée courir, c'est au-dessus de mes forces. Et donc, je ne pouvais pas prendre le risque que ça arrive. Et surtout, tuer une araignée, ça implique de s'approcher de l'araignée. Et ça aussi, c'était impossible pour moi. Mais du coup, je demandais à d'autres personnes de les tuer pour moi. Et au fond de moi, je savais que c'était pas bien, mais on peut pas s'en empêcher, en fait.
Oui, donc la peur de louper le coup était pire pour vous que l'idée de la tuer, en fait.
Oui, c'est ça. Et c'est vraiment ça qui est bizarre avec cette phobie, c'est qu'on a envie de prendre ses jambes à son cou, de courir, de partir à l'autre bout de la pièce. Mais d'un autre côté, on est aussi un peu... obligé de regarder ce qui se passe, parce que si par malheur l'araignée disparaît, oui. Là c'est pire, parce que dans notre tête elle peut ressurgir à tout moment, elle peut nous sauter dessus, ça devient aussi difficile à vivre. Donc on a besoin de la voir écrabouillée, et ça c'est vrai, quand on y pense, c'est assez terrible, quoi.
Jessica Jousse-Baudonnet, vous êtes notre invitée avec ce livre « Ce que les araignées m'ont appris », c'est aux éditions Tana. On va voir avec vous dans quelques instants quelles sont les conséquences plus larges de cette peur sur notre rapport aussi plus largement au vivant, et puis vous répondrez aux messages et aux questions qui arrivent pour vous sur le site de la Terre au Carré. J'imagine que beaucoup d'entre vous qui nous écoutez avaient des choses à nous dire au sujet des araignées.
France Inter. Mathieu Vidard. La Terre au Carré.
Je voudrais bien expliquer les choses. Quand vous connaissez l'animal, quand vous le connaissez dans sa physiologie, je vais vous montrer une mygale, par exemple, qui est là. eh bien, pour la réputation qu'on a du fait qu'elle est mortelle, eh bien, on peut en avoir peur, parce que c'est quand même un animal très, très spécial. C'est un animal qui a des pattes dans tous les sens. C'est une sorte d'araignée.
Mais
c'est
si elle vous piquait, est-ce qu'elle serait mortelle?
Alors, pourquoi voulez-vous qu'elle... Oui, si elle me piquait, elle serait mortelle. Mais pourquoi voulez-vous qu'elle le fasse?
Et
étant
si
donné que
peur...
je ne lui fais pas mal, que je ne lui fais pas peur, que vous ne poussez pas des cris, par conséquent, il ne va rien se passer. Et n'importe qui, ici, sur le plateau, pourrait faire ce que je viens de faire. Je ne suis pas un sorcier, je n'ai pas de pouvoir particulier, je suis un homme comme un autre. Et toute personne sachant que l'on peut le faire... peut le refaire.
La voix de Max-Yves Brandilli, ethnozoologue, c'était en 1977 dans une émission qui s'appelait à l'époque Aujourd'hui, Madame. Jessica Jousse-Baudonnet, vous qui publiez Ce que les araignées m'ont appris chez Tana Édition. Vous non plus, vous n'êtes pas une sorcière?
Non, je pense pas.
Vous confirmez?
Je confirme.
Donc vous n'avez pas des super pouvoirs non plus pour faire face aux araignées?
Non. C'est aussi ce qui est bien, c'est que tout le monde peut s'en sortir, ouais. Même quand on est très installé dans la peur. Ouais.
Vous racontez justement ce moment de rupture qui a ouvert finalement pour vous une voie aussi à une reconstruction personnelle, mmh. à de nouvelles rencontres aussi. Alors comment s'est passé ce moment qui vous a fait quitter quand même les contrées de la peur?
En fait, ça s'est fait complètement par hasard et ça s'est fait par une rencontre. Quand j'étais en dernière année d'école vétérinaire, j'ai emménagé avec quelqu'un qui, lui, adorait les petites bêtes et les araignées.
Ouais, bah, ça tombait bien d'être dedans.
Ça, ouais, enfin,
c'est un hasard total, hein.
C'est un hasard total, on ne choisit pas de qui on tombe amoureux, mais il se trouvait que c'était de lui. Et donc, on a fini par emménager ensemble et donc j'ai découvert toutes ces colonies d'insectes et de bestioles. Donc, ça a été
et vous avez été capable d'emménager dans cet appartement avec toutes ces bêtes autour de vous?
Alors, il n'avait pas d'araignée à l'époque, c'était ma première question. mais c'est vrai qu'il avait tout un tas d'animaux qu'on ne s'attend pas à avoir dans une maison, des scarabées, des mille-pattes, des phasmes. Donc tout ça, ça a été déjà un premier apprentissage parce que moi, je partais de zéro, je me disais mais pourquoi avoir ça chez soi?
Ouais.
Et en fait...
Donc ça vous a beaucoup questionné quand même, le fait de voir ce passionné d'invertébrés comme ça qui est...
Oui, alors, comme je vous disais, j'aimais tous les animaux sauf les araignées, donc ça ne me posait pas tant de problèmes, mais c'est vrai que ça posait la question de pourquoi. Et en fait, ça a été très formateur de vivre à ses côtés, parce que j'ai pu voir et comprendre l'intérêt, entre guillemets, d'avoir ces animaux à la maison. Et c'est une vraie source d'émerveillement de pouvoir contempler ces animaux-là qui font leur vie de leur côté, desquels on n'attend rien, et qui sont tout simplement extraordinaires à observer. Et donc, comme je vous disais, à l'époque, il n'avait pas d'araignées, mais il s'est trouvé que un jour, il en a voulu.
Aïe.
Et ça a été un peu le début de mes problèmes.
C'est vrai. Alors, racontez-nous, alors, comment ça s'est passé exactement? Parce qu'il y a une rencontre avec une araignée en particulier.
Oui. Alors, il a commencé par me dire... Non mais regarde, celle-là, cette espèce, elle est hyper mignonne, tu verras, elle est petite, en plus je suis sûre que ça va te plaire. Et j'ai refusé, j'étais catégorique. Et en fait, quelques mois plus tard, il m'a reposé la question et j'avais eu un peu le temps de m'habituer à ces autres animaux, d'apprendre à les soigner et puis aussi je voyais à quel point ça lui faisait plaisir.
Ouais.
Donc j'ai fini par accepter qu'on reçoive ces petites araignées à la maison.
Incroyable, il fallait vraiment être très très amoureuse quand même, pour être capable d'accepter. Et il y a une rencontre avec Ichi.
Oui, alors Ichi c'était un peu après, c'était plusieurs années après, en fait, je me suis déjà habituée à ces premières araignées qu'on a reçues à la maison, qui effectivement étaient toutes petites, surtout qu'on les a reçues bébés, et avec lesquelles j'ai pu me familiariser. Le confinement aidant, j'ai...
Ah oui, en plus, c'était pendant le confinement, quelle horreur.
Oui, mais alors, on les a eu avant, mais on a ensuite été confinés, et comme je faisais beaucoup de photos et que j'étais très triste d'être enfermée chez moi, j'ai tourné mon objectif vers les petites bêtes qu'on avait à la maison, et à court de sujet, je suis arrivée aux araignées, mais alors de très très loin, je les photographiais vraiment de l'autre bout de l'appartement, avec un très gros zoom.
Ouais. Vous arriviez à dormir entourée par ces bêtes qui ont quand même suscité chez vous une phobie très importante.
Alors, on n'était pas dans la même pièce et je savais qu'elles étaient bien, bien enfermées, entre guillemets. Je savais qu'elles ne pouvaient pas sortir.
Ouais.
Et elles étaient vraiment toutes petites parce qu'on les a reçues bébés, elles faisaient quelques millimètres. Donc, toute petite, à l'autre bout de l'appartement, bien enfermée, ça pouvait aller. Mais ça a demandé un peu d'adaptation quand même.
Donc finalement, petit à petit, le processus de guérison s'est enclenché.
En fait, finalement, ce que j'ai fait complètement par hasard, c'est un peu ce qu'on fait en thérapie d'exposition en psychiatrie. C'est en fait s'exposer progressivement et à son rythme aux stimuli négatifs. Donc dans mon cas, c'était les araignées. Et donc, je les ai observées à la hauteur de ce que je pouvais faire, en arrêtant tout de suite dès que je sentais que j'allais trop loin. Et petit à petit, je me suis un peu rapprochée d'elles. Je les ai regardées de près. J'ai vu qu'en fait, elles avaient des comportements auxquels je ne m'attendais pas du tout, qu'elles se grattaient, qu'elles faisaient leur toilette, que je leur faisais peur quand j'avançais trop vite. Tout ça, ça a été vraiment un apprentissage. Et effectivement, à l'issue de ces deux années d'apprentissage, parce que c'est des araignées qui vivent environ deux ans, et ben, j'ai été très triste de constater que ça me faisait de la peine qu'elles soient mortes, qu'elles soient parties, parce que je m'étais habituée. Et donc, j'ai eu envie, un peu pour en finir une bonne fois pour toutes avec cette phobie, d'adopter moi-même une petite araignée de cette espèce. Et donc, j'ai adopté Itchy, dont vous parliez. Ouais.
Philippus regius.
Philippus regius, oui.
C'est sa, son espèce. À quoi elle ressemble? Alors, c'est une petite taille aussi?
Ah oui, c'est une petite araignée qui fait partie de la famille des araignées sauteuses. Donc, c'est une famille qui existe un peu partout dans le monde. Quand on est en France, il y a pas mal d'araignées sauteuses en France.
Et elle porte bien son nom?
Et elle porte bien son nom parce qu'elle saute. Donc, ce sont des araignées qui ne font pas de toile pour chasser. Elles chassent à vue. Ouais. Et c'est pour ça qu'elles ont deux très gros yeux à l'avant de la tête, six plus petits sur les côtés, mais deux très gros yeux.
Et elle peut sauter à quelle hauteur?
En fait, elles sautent plusieurs fois leur taille, leur propre taille.
Ouais.
C'est pas tellement en termes de hauteur, mais voilà, elles peuvent sauter plusieurs fois leur taille sans problème. Elles voient très bien et elles peuvent attraper des proies à très longue distance.
Et ça vous faisait pas peur du tout?
Alors si, l'idée me terrifiait. L'idée me terrifiait absolument. Et d'ailleurs, ça, le fait qu'elles sautent comme ça, ça a participé à créer un petit peu des marches arrière dans mon processus de guérison, parce que je pensais que j'étais prête et en fait je les voyais sauter, et là ça me remettait quelques semaines en arrière.
Ouais.
Mais c'est aussi en même temps extrêmement intéressant à voir. C'est fascinant en fait de voir une araignée repérer une proie de loin, de se fixer ses yeux dessus, d'ancrer un peu un fil de soie d'attache pour se rattraper si jamais elle se rate dans le saut, et puis de sauter sur une proie qui s'y attend pas et de l'immobiliser. Tout ça, c'est des comportements qu'on observe très rarement avec d'autres animaux, en fait.
Et alors, vous expliquez que cette araignée, elle vous suivait du regard.
Oui, en fait, comme c'est des araignées qui sont très visuelles, elle nous voit, donc il faut s'approcher un peu, mais elle nous voit très bien. Alors, quand je dis elle nous voit, elle voit quelque chose bouger, donc ça active un peu leur attention. En revanche, elles comprennent pas ce qu'on est. Elles ne me voyaient pas dans son ensemble.
Ouais.
Mais on peut, en faisant du mouvement, susciter un peu leur intention et parfois aussi leur faire peur. Ouais.
C'est ça, et alors ça c'est pareil, vous racontez que le fait de lui faire peur à cette araignée, ça a été aussi quelque chose qui vous a aidé à sortir de votre propre peur de l'animal.
Oui, parce qu'en fait on dit, on entend parfois quand on est phobique, non mais c'est toi qui lui fais peur, etc. Mais tant qu'on le voit pas, c'est difficile à appréhender. Et comme la plupart des araignées, celles qu'on a dans nos maisons, on voit pas super bien. C'est pas quelque chose qu'on peut expérimenter. Mais avec ces araignées là qui sont très visuelles, qui ont une très très bonne vue, tout de suite, on peut vivre ce dicton qu'on fait peur aux araignées, parce qu'on les voit tout de suite se retourner, sursauter. Parfois, j'avais mon chat qui passait, je voyais qu'elle le suivait du regard. Donc, c'était vraiment particulier et ça a pas mal aidé à un peu déconstruire les idées reçues que j'avais.
Donc, il y a eu cet attachement pour Itchy, c'est le nom de cette araignée. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que vous racontez évidemment les deux années de vie avec Itchy, parce que c'est pas très long, la vie d'une araignée. Et vous racontez les derniers jours d'Itchy. Et en le lisant à la fin de votre livre, j'ai presque versé une larme. C'est incroyable quand même.
Moi aussi,
de pouvoir éprouver comme ça une émotion.
C'est vrai, mais en fait, on peut s'attacher à n'importe quoi ou n'importe qui, pour peu qu'on y prête attention. Itchy, c'est une araignée dont je me suis occupée toute sa vie et tous les jours, en fait, depuis que je l'ai reçue. Et je l'ai reçue, elle était toute petite. Donc, je l'ai vue grandir, je l'ai vue faire ses mues, je l'ai vue changer d'aspect. Et c'est vrai que deux ans de ça, quand on perd cette petite bête, en fait, on se rend compte qu'on s'est attaché. Et j'ai été aussi surprise, comme vous, de ne pas verser une larme, mais de tomber en sanglots quand elle est morte. Parce que c'était une page qui se tournait. Et puis, j'étais aussi tellement... j'avais tellement de reconnaissance pour ce petit animal qui m'avait permis d'en finir une bonne fois pour toutes avec la phobie.
Comment se traduit la vieillesse chez une araignée, alors? Comment ça s'observe?
Alors, c'est surtout un ralentissement des mouvements. Avec la vieillesse, les araignées bougent de moins en moins. Elles chassent de moins en moins aussi. Elles finissent par maigrir. C'est essentiellement ça qu'on peut observer, des signes de dégénérescence. Et on voit aussi, ce qui est intéressant chez les araignées, c'est qu'on peut voir si elles ont bien mangé récemment ou si ça fait longtemps qu'elles n'ont pas mangé, par un affaissement de l'abdomen. Mmh. Et donc Ichi, quand elle a fini par partir, ben ça faisait plusieurs jours qu'elle ne bougeait plus du tout, qu'elle était vraiment extrêmement maigre, et voilà, qu'on voyait qu'elle ne prêtait plus du tout d'attention. Même là, si je faisais des mouvements devant elle, je voyais qu'elle ne me suivait plus, et ouais. Voilà, qu'elle était déjà plus là.
Elle est allée se cacher quasiment, ouais. pour mourir.
Elle allait se cacher, mais alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui est habituel chez les araignées, mais en tout cas, oui, les derniers temps, en fait, elle avait complètement disparu, parce qu'il y avait des petites cachettes dans son terrarium et des souterrains, et en fait, elle s'est cachée, ouais, sous son écorce, et puis elle a fini par ressurgir, et c'est là que j'ai vu qu'elle était vraiment mal en point, et ouais, j'ai pu assister à ces derniers instants.
L'histoire d'Ichi, qu'on peut lire donc dans cet ouvrage « Ce que les araignées m'ont appris ». Jessica Jousse-Baudenay, vous êtes aujourd'hui l'invitée de La Terre au Carré.
La Terre au Carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
Cet animal qui a été peu étudié, qui fait partie vraiment des mal-aimés dans l'esprit des humains, alors que si on les connaît mieux, on va découvrir une grande diversité, et comme on n'est rien pour ces animaux, on n'est qu'un support éventuel. Bah, la plupart des araignées ne sont absolument pas dangereuses pour l'humain. Sur les plus de 52 000 espèces au monde, on a potentiellement une centaine d'espèces qui peuvent provoquer des réactions cutanées au niveau humain. Mais en général, c'est rien.
La queen des araignées, Christine Rollard, qui travaille au Muséum National d'Histoire Naturelle, Jessica Jousse-Baudenay, vous qui êtes notre invitée. Avec ce livre chez Tana Éditions, Ce que les araignées m'ont appris, vous êtes vétérinaire, et c'est vrai que la question écologique, elle est aussi très importante, parce qu'au-delà de la peur, il y a aussi tout ce que ces animaux, les araignées, nous apportent sur le plan écologique, et surtout apportent à la planète, tout simplement, avec beaucoup de menaces qui pèsent aujourd'hui sur ces animaux.
Oui, aujourd'hui, on sait, grâce à un rapport publié en 2023, que plus de 10% des espèces d'araignées françaises sont menacées. Donc il y a à peu près 1600 espèces d'araignées en France.
Ouais.
Et 10%, c'est énorme. Et en fait...
Qu'est-ce qui explique ces menaces, justement ?
Oui. Alors, il y a plein de facteurs. Bon, le premier, c'est effectivement la destruction des habitats naturels. Mmh. La pollution, ça a un effet direct et indirect, parce que comme elles mangent des insectes, si ces insectes sont eux-mêmes vecteurs de polluants, eh ben, elles vont aussi être empoisonnées.
L'usage des pesticides,
les pesticides, ouais. La surfréquentation des milieux aussi. Il y a certaines espèces qui sont menacées parce que, tout simplement, parfois, il y a des afflux de tourisme ou de personnes dans des milieux qui contiennent des espèces un peu qui ont des difficultés à survivre. Et
le changement climatique.
Le changement climatique.
Toujours.
Toujours, bah ça c'est vraiment une constante. Et aussi, pour les araignées, on peut aussi parler, même si c'est un peu plus anecdotique, mais du prélèvement dans le milieu, parce qu'il y a des espèces d'araignées qui suscitent la convoitise et qui sont prélevées, qui sont capturées dans le milieu naturel. Et ça peut être un facteur en général moindre, mais ça peut contribuer à cette menace.
Et pourtant, elles ont un rôle majeur aussi, c'est ce que vous rappelez, dans la régulation en particulier des populations d'insectes.
Oui, c'est ça qui est catastrophique, c'est que on sait que 10% des araignées sont menacées, il y a 30% des espèces pour lesquelles on n'a tout simplement pas assez de données. Mmh. Donc on manque à la fois de connaissances et juste de financement pour protéger ces araignées-là. Et pourtant, c'est des animaux qui ont un rôle écologique majeur, absolument fondamental. C'est celui de réguler la population d'autres animaux, et donc notamment des insectes, mais aussi d'autres araignées, enfin tous les arthropodes en général. Et donc en fait, sans elles, on vivrait dans un espèce d'enfer d'insectes non régulés.
Là, on aurait de quoi avoir des phobies. Justement.
Là, on aurait de quoi avoir des phobies. Et puis surtout, je pense qu'on a plus à s'inquiéter de voir proliférer les moustiques et les mouches qui peuvent, elles, nous transmettre des pathologies plutôt que.
C'est ça. Donc, elles nous protègent aussi d'une certaine façon, même s'il y a beaucoup de maladies, par exemple,
qui sont
portées par les moustiques. Hein.
Oui.
Mais le fait de les manger, ça peut en éviter quelques-unes quand même.
Oui, bien sûr. Et au-delà de leur rôle de prédation, qui est absolument fondamental, c'est aussi des proies pour tout un tas d'autres animaux, les oiseaux, mais aussi des petits mammifères, les hérissons, les musaraignes, etc. Donc elles font vraiment partie intégrante de nos écosystèmes, et donc on a besoin d'elles, et nos écosystèmes ont besoin d'elles.
Et alors, le changement climatique, ça modifie aussi la répartition des araignées sur le territoire français, par exemple, en France métropolitaine.
Il y a certaines espèces qui se propagent un peu vers le nord. Notamment, on peut parler de l'argiope frelon. Et alors, c'est assez curieux dans cette espèce, c'est assez notable. comme il y a quand même moins de ressources et que le milieu est moins favorable, elles sont plus petites dans le nord. Donc c'est des araignées qui ont une assez grande taille et qui sont très grandes dans le sud et très petites dans le nord. Mais oui, on voit qu'il y a beaucoup de un peu de remodelage des populations des araignées.
Ouais. Donc finalement, la séparation entre les humains et les araignées, c'est un non-sens écologique en réalité.
Oui, bien sûr, ça n'a pas lieu d'être. On ne peut pas séparer l'humanité du reste du vivant, parce qu'en fait, tout ça, c'est interconnecté. Donc c'est un peu illusoire de penser qu'on peut se passer d'elles et vivre sans elles.
Oui. Jessica Jousse-Bonnonnet, on a tellement de messages qu'on va y aller tout de suite. Voilà, des messages sur la page de la Terre au Carré, sur nos réseaux sociaux, et puis des messages vocaux reçus sur l'application Radio France, et on va commencer par l'un d'entre eux.
Bonjour, Michel, près de Villefranche-sur-Saône. J'aimerais faire passer le message que les araignées au Japon sont considérées comme des merveilles d'amour maternel, puisque certaines espèces se sacrifient en s'offrant à nourrir leurs jeunes. J'aurais aimé avoir des indications sur des documentaires qui pourraient montrer ce type de comportement. Merci pour vos émissions. Au revoir.
Alors, il y a du cannibalisme, effectivement, chez les araignées.
Oui, oui, ça peut arriver, oui.
Ouais.
Oui. Le cannibalisme, ça peut arriver essentiellement quand les araignées se rencontrent, c'est-à-dire plutôt en période de reproduction.
Oui.
Mais c'est pas systématique, contrairement à ce qu'on pense. Le cannibalisme, dès qu'il y a un accouplement, la femelle mange le mâle.
Ouais. Alors cette auditrice vous demandait des documentaires. Bon, vous n'en avez pas forcément en tête là tout de suite comme ça, mais il en existe.
Oui, il en existe. C'est quand même assez difficile de trouver des documentaires qui mettent en avant et en valeur les araignées, mais il y en a. Et surtout, ce qu'on peut voir dans les documentaires assez fréquemment, c'est l'araignée paon, qui est un genre d'araignée qui vit en Australie et qui a un comportement de danse nuptiale assez incroyable. C'est des araignées qui sont très colorées, très belles et qui dansent. Donc ça, on les voit souvent dans les documentaires animaliers.
Ouais. Philippe nous dit ceci, une anecdote: dans les années 70, mes parents naviguaient autour du monde sur leur voilier, c'était un des seuls bateaux à avoir peu ou pas de cafards à bord. Ils mettaient ça sur leur vigilance, à nettoyer tout ce qui montait sur le bateau. Et une nuit de quart, une énorme araignée velue était de sortie. Et bien sûr, saisie d'angoisse, ils l'ont écrasée. Et ensuite, comme sur les autres bateaux, eh bien, ils ont été envahis de cafards.
Oui, ça c'est vraiment ce que j'essaye d'expliquer aux gens, c'est que elles sont pas là par hasard, et le fait qu'elles chassent ces animaux, ça nous évite d'autres inconvénients. Et en fait, quand on retire ces araignées, on voit tout de suite d'autres déséquilibres se mettre en place. Et c'est un peu le problème avec cette peur, c'est que parfois on se saisit d'un insecticide et puis on tue notre araignée domestique, et là on voit proliférer d'autres animaux, et du coup on met encore plus de pesticides et on tombe dans une espèce de cercle vicieux où on n'arrive jamais à s'en sortir parce que en fait, la nature faisait très bien son boulot toute seule et on a interféré là-dedans.
Il y a un autre message de Françoise qu'on vient de recevoir sur l'appli Radio France.
Bonjour, je vais vous dire ce que je fais, moi, avec les araignées. Je les laisse vivre dans ma maison. C'est le meilleur insecticide, le plus naturel. En plus, un insecticide vivant. Une petite exception pour les grosses araignées velues et trapues. Je les attrape sans leur faire de mal, et je les mets dehors.
Voilà. Merci Françoise pour ce témoignage. Ouais. Voilà, pour ceux qui n'ont pas trop peur des araignées, on peut effectivement bien cohabiter avec elles.
Oui, ouais, c'est chouette de pouvoir les mettre dehors comme ça. Je pense que tout arachnophobe rêve de vivre avec Françoise qui sait attraper les araignées et les mettre dehors. C'est aussi très bien de se rendre compte de ce rôle-là et puis d'essayer de les reloger si éventuellement ça pose problème à quelqu'un en intérieur.
Elle fait peut-être des interventions comme ça, occasionnelles, dans les maisons. Marika nous dit, que pensez-vous des phobies que suscite la simple vue d'une photo de grosse araignée? Même le simple fait d'écrire ce mot, dit-elle, me met mal à l'aise.
Oui, mais ça, c'est vraiment caractéristique des phobies, c'est que parfois, même la pensée ou l'évocation d'une araignée suffit. Il y a des gens qui me disaient, moi j'aimerais beaucoup lire ton livre, mais il y a une araignée dessus. Je dis, mais c'est une fosse, c'est des cailloux et des branches.
Ah oui, vous avez été gentil sur la couverture.
Mais malgré tout, c'est quelque chose qui est tellement irrationnel, qui est tellement disproportionné, que en fait, les simples représentations peuvent parfois amener à des grosses crises d'angoisse. Ouais.
Alors Pierre nous dit, je suis arachnophobe depuis l'enfance, je lis régulièrement des articles sur l'intérêt des araignées, mais la peur ne passe pas, je sursaute à chaque rencontre avec la bête. Alors qu'est-ce qui est le mieux justement? C'est de se confronter, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Jessica Jousse-Baudonnet, c'est vraiment d'affronter la peur en...
Il ne faut pas faire ça n'importe comment, mais il faut se dire que la phobie, c'est un trouble anxieux, donc émotionnel, et que la raison ne suffit pas. Quand on apporte des faits à un arachnophobe, en général, ça lui passe au-dessus de la tête, parce qu'on n'est tout simplement pas en état de recevoir ces faits-là. Et donc, il faut un reprogrammage, entre guillemets, émotionnel. Mm-hmm. Et ça passe en général par ce qu'on appelle la thérapie cognitive comportementale, la TCC, qui se fait auprès de psychologues et psychiatres. Et eux, en fait, vont permettre d'encadrer ce processus de confrontation avec d'abord peut-être une photo. Ensuite, on peut toucher la photo. En tout cas, voilà, on a une approche très progressive qui permet de recâbler un petit peu son cerveau pour associer des émotions, si ce n'est tout de suite positives, au moins neutres avec ces animaux-là.
Christine dit, vous me redonnez de l'espoir car votre ancienne phobie est identique à la mienne. J'ai 56 ans et je pensais être condamnée à vie avec ma phobie des araignées. Elle vous demande aussi des conseils, mais vous venez d'y répondre puisque c'était exactement la même question de Pierre. Un témoignage d'Isabelle, une petite histoire à vous raconter. Il y a 20 ans, une araignée s'est installée dans l'angle de ma chambre, près de la tête de lit. Je l'ai appelée Éléonore. Jeu de mots qui voulait dire qu'elle était sur le mur orienté au nord. Elle est restée des mois dans sa toile et un jour, je lui ai dit qu'elle serait mieux dehors. Le matin où j'ai voulu la mettre délicatement dans une boîte, elle n'était plus là. Je n'ai pas peur des araignées, mais je les trouve plus majestueuses dans les espaces extérieurs et je les observe et les photographie souvent. Voilà pour ce témoignage. Vous auriez supporté, vous, d'en avoir une sur votre tête de lit?
Non, jamais de la vie, surtout dans la chambre.
Une araignée. Allez, un ancien arachnophobe vient de nous laisser un message sur l'appli Radio France.
Bonjour, Nancy, du Grand Luberon. Petite, j'étais absolument terrorisée par les araignées. À présent, il y en a 400, 500. Elles capturent nos cauchemars. Elles capturent les moustiques qui transmettent un tas de maladies, les phlébotomes. Sacrilège à celui qui tue une araignée. Merci pour vos émissions.
Merci Nancy. Une réaction de votre part, Jessica Jousse-Baudonnet?
Ça donne beaucoup d'espoir et moi ça me donne le sourire d'entendre ça parce que j'ai pu être dans le cas de me dire ça passera jamais, c'est comme ça, c'est qui je suis. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir autant de témoignages de gens qui sont passés de l'autre côté. Et en fait, quand on s'affranchit de ça, quand on s'affranchit de cette peur, ça devient tout de suite des sujets d'observation comme les autres et ça crée vraiment de l'émerveillement.
Marion dit, j'ai été très phobique des araignées pendant très longtemps, mais après avoir entendu une spécialiste du Muséum National d'Histoire Naturelle, plus du tout, le simple fait de l'entendre, c'est incroyable. Désormais, je ne sursaute jamais lorsque j'en croise une chez moi, même une moyenne grosse. Je la laisse tranquille et je n'y pense plus. J'adorerais pouvoir en apprivoiser une. Est-ce possible avec celle de nos contrées ? Demande-t-elle.
En fait, l'apprivoisement, ça nécessite que l'animal sache qui on est et ce qu'on est, ce qui est impossible avec une araignée.
Ouais.
Donc pas au sens littéral, mais en tout cas, on peut apprendre à cohabiter avec une araignée à la maison et puis l'observer.
Ouais.
Moi, c'est ce que j'encourage aussi, c'est de justement pas forcément chercher à voir une araignée, mais à apprécier celle qu'on a à la maison, apprécier leur beauté, leur intérêt, et puis de les regarder. En fait, il y a tout un tas de choses à observer, même chez des araignées très communes qu'on a au plafond.
Merci beaucoup, Jessica Jousse-Baudonnet. Ce livre, Ce que les araignées m'ont appris, donc c'est chez Tana Édition. Et puis également, votre compte Instagram et YouTube s'appelle Therapodia, avec plein de vidéos pour aussi donner des conseils à celles et ceux qui ont peut-être peur des araignées. Merci beaucoup à vous d'être passé par chez nous, avec Joël Levert, que je remercie également, qui a préparé ce dossier, Jérôme Boulet qui réalisait cette émission, et Julien Thévenot à la technique.